Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vous cherchez de nouvelles sources de trafic? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 454. Bon, j'espère que vous avez la forme, hein, la grande énergie, la forme, la patate, la pêche, je ne sais pas comment dire ce matin. Nous sommes vendredi, nous sommes à l'approche d'un long week-end hein, pour certains. J'espère que vous pourrez en profiter, non pas pour vous reposer tranquillement, oui, mais pour aussi créer du contenu. Hein, voilà, les grands week-ends comme ça, ça permet de faire quoi, par exemple, une petite vidéo YouTube, je sais pas quoi, ou un podcast de plus, ou tranquillement avancer sur l'écriture de votre livre dans le cadre du Nano Vrimo. Bah oui, hein, c'est comme ça, les grands week-ends, c'est aussi pratique pour ça. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité, mais j'ai une question. Voilà, on va dire que c'est Olivier qui s'invitait dans le podcast. Par le biais d'une question qu'il a posée dans le Ask Bertrand, vous savez, hein, si vous me posez vos questions, j'y réponds. Et Olivier, bon, bah, ça fait partie hein, des auditeurs plus que fidèles, puisque fait partie des patrons, fait partie aussi de ceux qui achètent des formations. Et il m'a posé une question qui est très intéressante. Alors Olivier, il a un site qui s'appelle votrecoachcommercial.fr et dans lequel hein, il nous explique comment devenir ceinture noire de la vente. Hein. Je vous dis tel quel, c'est marqué sur le site. Le but, hein, c'est d'apprendre étape par étape comment devenir un commercial serein avec une démarche éthique envers son client. Donc il a son blog et puis il a bien sûr bah, des réseaux sociaux et c'est là qu'il a une question qui se pose. Alors il m'a posé une question sur le duplicate content et les articles LinkedIn. En fait, l'idée, c'est qu'il voudrait reprendre certains de ses articles de blog pour les mettre directement dans LinkedIn, qui est le réseau social qu'il pense favoriser le plus à l'avenir, étant donné son domaine d'activité. Et il a vu que LinkedIn favorisait les articles natifs sur la plateforme, et il a entendu parler du duplicate content. Et il se demande du danger, il se pose la question du danger que ça représente. Et en fait, il dit « Google semble ne pas du tout apprécier la démarche ». Est-ce vraiment dangereux de reprendre du contenu existant de son blog pour le mettre en natif sur une autre plateforme telle que LinkedIn? N'y a-t-il pas un temps à respecter entre les deux contenus? Par exemple, un article de plus de 6 mois sur le blog est-il toujours considéré comme dupliqué? Et voilà donc la question d'Olivier, alors qui est une question que beaucoup de gens se posent, ça fait des années qu'on se le pose, qu'on se pose cette question-là, pour LinkedIn et pour d'autres outils. On va essayer de reprendre un petit peu les bases. D'abord, qu'est-ce que le contenu dupliqué ou duplicate content? Il y a beaucoup de mythes hein, autour de ce concept. Ça fait des années hein, que Google communique dessus, puisqu'on retrouve des sources, par exemple, en 2008, où démystifier hein, le contenu dupliqué, ce que c'était vraiment, etc. Vous trouvez leur page d'aide. J'en avais d'ailleurs parlé aussi dans l'épisode 135. Hein. J'ai fait un épisode dans l'épisode 135 qui parlait déjà de cette problématique-là, qui n'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, comme toujours à Google, on n'a pas les réponses toutes faites. Le contenu dupliqué, je vous rappelle le concept, hein, c'est quand Google estime que deux contenus sont des copier-coller l'un de l'autre. Alors, il ne va pas afficher les deux dans les résultats de recherche. En fait, il va filtrer les résultats pour n'en faire apparaître qu'un. Le fait d'avoir du contenu dupliqué ne signifie pas que votre site ne sortira jamais dans Google, hein, tout simplement, mais juste en fait que les pages en double pourraient être cachées. S'il estime que vous avez une page en double par rapport à une autre page qui est ailleurs, eh ben, il va cacher celle qui est en double. Alors, si c'est la vôtre, c'est pas de bol. Alors, il y a deux formes de contenu dupliqué. Il y a contenu dupliqué interne, hein, généré souvent par son site, souvent par une mauvaise configuration. Hein. WordPress est capable de générer du contenu dupliqué, notamment dans les pages de rubriques, dans les mots-clés, des choses comme ça. Donc là, il y a des choses qui sont à faire. Et dans l'article 135, je vous avais dit d'ailleurs, je vous avais renvoyé sur des liens qui vous aident à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et puis, il y a aussi un contenu dupliqué externe. Hein, c'est quand deux sites ont exactement la même page. Et là, on serait plutôt dans du contenu dupliqué externe, hein, puisque l'idée, c'est de prendre le contenu du blog, par exemple pour Olivier, de prendre son contenu de blog et le mettre sur LinkedIn, mais on pourrait aussi le mettre sur Medium. On a la même problématique. Alors, la définition de Google hein, du contenu dupliqué, c'est quoi? C'est... Par contenu en double, on entend généralement des blocs de contenu importants appartenant à un même domaine ou répartis sur plusieurs domaines qui sont identiques ou sensiblement similaires. Dans la plupart des cas, ces contenus ne sont pas trompeurs à l'origine. En fait, Google donne certains cas dans lesquels il estime que c'est normal. Hein. Par exemple, Y aurait eu des pages qui se répliquent entre des versions classiques, des versions mobiles, des choses comme ça. Bon, il estimait que c'était normal. Ou alors, si par exemple, vous avez un forum qui est lié à votre site, si vous avez le début de l'article qui est pris dans le forum pour que ça fasse des commentaires, etc., il estime que c'est normal, mais que vous essayez pas de truander l'algorithme. En fait, il va expliquer, il explique dans une page ce qui le gêne. Je vous donnerai les dans les notes d'épisode, je vous mets les liens, tout simplement. Donc vous la retrouverez facilement sur le site, vous faites votrecoachweb.com/454, je vous mettrai ça dans la journée. En fait, il explique ce qui le gêne, c'est que dans certains cas, le contenu est délibérément dupliqué, je cite, entre les domaines afin de manipuler le classement du site par les moteurs de recherche ou d'augmenter le trafic. Ce type de pratique trompeuse peut avoir des effets négatifs sur la navigation de l'internaute qui voit quasiment le même contenu se répéter dans un ensemble de résultats de recherche. Voilà, Google, voilà, très clairement, ce qu'il cherche à éviter, c'est que finalement, il se retrouve avec, soit submergé de contenu identique, que quand on fasse une recherche, on se retrouve avec 10 pages, par exemple, 10 pages, qui est tout simplement le même contenu, mais qui prennent chacun la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il en garde un, et il filtre les autres, tout simplement. Alors, comment fait Google pour mesurer le duplicate content? Parce que vous avez vu, il n'a pas donné de chiffres. Eh ben, comme d'habitude, seul lui le sait, c'est un petit peu Dieu, dans cette histoire-là. C'est le Dieu du référencement dans son... Ben, c'est eux les chefs, c'est eux qui le savent. Ils ont des millions de calculs qui se font à la seconde. Et donc, eux, ils le savent comment ça marche. Et bien sûr, nous, à côté de ça, on essaie de deviner. Alors, bien sûr, il y aurait le critère de l'ancienneté qui est déterminant. C'était la question d'Olivier, le contenu original, on parle de contenu canonique, a forcément été publié en premier. Mais en fait, on sait aussi que Google prend en compte la popularité des pages, mesurée notamment par les backlinks, les liens, et depuis d'autres sites. Et une page plus récente pourrait donc être préférée par Google s'il estime qu'il répond mieux à la réponse de l'internaute ou s'il l'estime plus sérieuse, avec plus d'autorité. À quel point les contenus peuvent être différents, doivent-ils être différents? Alors là aussi, c'est une question qui est compliquée. On arrive là sur une question du seuil de tolérance. Alors selon Olivier Andrieux du site abondance.com, qui est une référence en France sur ce domaine, lui il avait estimé que le seuil est de 70%, c'est-à-dire que Google ne pénaliserait pas les pages pour dupliquer de content si elles ont moins de 70% de contenu identique entre deux pages. D'autres estiment que ce taux serait plutôt de 40%, voire moins. En fait, c'est des estimations tout ça, il y a des gens qui ont fait des essais, il y a même des gens qui ont fait des recopies complètes, etc., qui se sont rendus compte que dans certains cas, Google ne fait pas du duplicate content, que dans d'autres cas, il fait du duplicate content avec beaucoup moins de choses, etc. Bien entendu, Google va essayer d'estimer votre sérieux dans cette histoire-là, savoir si vous êtes un truand professionnel ou pas un truand professionnel. Personne n'a vraiment le chiffre. Voilà, c'est comme ça. Si c'est 40-70%, ça change tout, mais comme on n'a pas le chiffre, il faut arriver à travailler sur une estimation, et donc on est toujours comme ça, mais c'est le référencement, on sait jamais vraiment sur quel pied danser totalement. Alors, le cas LinkedIn, maintenant, est médium. Alors, pour reprendre la question d'Olivier, LinkedIn, en fait, permet de publier des posts, vous savez, avec des liens vers ses articles. Donc ça, vous connaissez le principe, mais vous pouvez aussi publier des articles directement hébergés sur LinkedIn, c'est ce qu'ils appellent la plateforme Pulse, qui a été lancé il y a quelques années, sur lequel vous pouvez faire des billets de blog, qui sont vraiment des billets de blog, avec une image de une mise en page, des images au milieu, vraiment faire de la mise en forme propre, etc. C'est pas juste un statut texte de quelques lignes avec un lien. Non, là, on est vraiment sur des vrais articles complets. Comme le dit Olivier, il est intéressant de publier du contenu natif sur LinkedIn, parce que LinkedIn, comme les autres réseaux sociaux, déteste les liens qui nous font sortir du site. Et oui, donc, ils vont plutôt mettre en avant des contenus qui font rester dans le site. Et notamment, la plateforme Pulse a été faite pour ça, pour attirer des contenus intéressants qui fassent rester les gens dans la plateforme. Et donc, quelque part, leur intérêt, c'était de la booster aussi. J'ai inclus aussi dans la même logique Medium, qui est une plateforme qui vous permet de partager des articles, avoir son blog, etc. Je le dis toujours, je suis pas extrêmement fan de Medium. En tout cas, je le conseille pas comme plateforme principale. Mais comme plateforme de relais, ça reste une plateforme intéressante. L'avantage dans les deux cas, c'est que LinkedIn comme Medium, vraiment, ont l'intérêt d'être des gros carrefours d'audience. LinkedIn, fait partie des plus gros réseaux sociaux au monde. Et Medium, c'est le 189e site le plus visité au monde. Donc vous avez, dans tous les cas, des millions d'utilisateurs potentiels. Même si Medium en France a vraiment réduit la voilure, ils ont enlevé, vous savez, les curations de publications qu'il y avait, des choses comme ça, en francophonie. Ils ont gardé ce qu'il y avait sur le monde anglophone, mais en francophonie, ils ont enlevé les publications qu'ils géraient eux pour mettre en avant les meilleures publications françaises. Et c'est une vraie source de visibilité, mais ça c'est dommage. Mais ça reste une belle chance d'être découvert. D'ailleurs, quand je fais mes newsletters, de curation, ma newsletter du vendredi avec mes liens ou du dimanche avec mes liens, mes autres liens aussi, mes plus personnels. Souvent, j'ai des articles qui viennent de Medium, hein, tout simplement. Pourquoi je dis que je suis pas très fan? Parce que des fois, vous savez, ils essayent de monétiser. Si vous activez la monétisation, au bout d'un moment, ils vous mettent un paywall et ils vous empêchent de lire le contenu. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça reste une belle chance d'être découvert sur Medium comme sur LinkedIn. Alors, bien sûr, LinkedIn a l'avantage, hein, de vous connecter avec votre réseau professionnel et d'être vu en tant que professionnel. Dans les deux cas, vous avez une question de dire, bah, il va être partagé plus facilement dans le réseau, puisque dans un bouton, vous avez le bouton partage, quelqu'un qui voit votre article, par exemple, sur LinkedIn, il va pouvoir le partager directement dans son propre réseau, donc ça devient intéressant, on va se dire, on va gagner un petit peu en viralité. Ce sont des réseaux qui prennent de l'ampleur, hein, les deux. Josh Hoffman, qui est un consultant sur de réseaux sociaux, assez connu dans le monde, avait dit que il y a quelques années maintenant, il avait déclaré que utiliser Medium faisait partie des stratégies les plus efficaces pour construire sa marque personnelle. Et il estimait en fait que le public de Medium est plus philosophe et intellectuel que le public moyen en fait. L'avantage c'est que c'est un public qui est plus averti, qui lit plus facilement les choses, qui a plus envie d'approfondir les choses, et donc c'est intéressant pour construire sa confiance globale. Et c'est le cas sur LinkedIn, nous sommes sur des professionnels, et donc c'est aussi intéressant pour la marque, hein, pour développer sa marque, c'est vraiment intéressant. Donc on est vraiment sur deux plateformes, hein, LinkedIn comme Medium, qui sont intéressants pour construire une marque. Même si moi, personnellement, je déconseillerais d'avoir LinkedIn ou Medium, hein, que ce soit Pulse ou Medium, que qu'on plaît une publication sur Medium, comme étant la seule source de contenu, hein, notre plateforme unique et principale de contenu, tout simplement parce que nous sommes pas à l'abri de retournements de situation chez eux. C'est quoi des retournements de situation? C'est des changements de politique, hein. Alors Medium, c'est ils changent de politique tous les 6 mois ou presque, donc ça, au moins, là-dessus, on est prévenu. Ils ont coupé les publications, ils avaient fait des publications gratuites avec des noms de domaine, ils les ont coupés, mais ils ont laissé les anciens noms de domaine, vous pouvez pas en créer d'autres, ou alors ça vous coûte cher. Vous êtes pas à l'abri qu'un jour LinkedIn décide que Pulse ne marche pas bien ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous ferez de vos contenus? On n'est pas à l'abri aussi que finalement ils décident de faire des gros efforts pour mettre en avant d'abord leur contenu à eux dans le terme de référencement. On n'est pas à l'abri aussi que Google considère que la source principale de contenu devienne Medium et LinkedIn parce que c'est là-dessus qu'il y a le plus de trafic et que ça répond le mieux. Et vous à côté, dans ce cas-là, vous pourriez en profiter, mais vous avez de la concurrence qui est juste à côté, etc. C'est un petit peu compliqué. Et puis, je vous rappelle aussi, quand même, que quand les gens lisent sur LinkedIn et sur Medium, ils sont pas chez vous. Donc, si vous avez d'autres choses à promouvoir, comme des pages de vente, comme des lead magnets, des choses comme ça, eh ben, ils les voient pas forcément, hein, voilà. Alors, le risque, en vaut-il la chandelle? Maintenant qu'on a vu la chandelle, hein, le côté intéressant de publier sur cette plateforme, est-ce qu'il y a un risque? Alors, soyons honnêtes, en fait, hein, Matt Cutts, hein, qui était le chef de l'équipe anti-spam de Google, j'ai envie de dire, affirme en fait qu'on ne doit pas s'inquiéter sur ce sujet. Il l'a dit plusieurs fois, il l'a dit pendant très longtemps, il disait on ne doit pas s'inquiéter à ce sujet-là. Google, en fait, se soucie finalement pas vraiment du contenu en double, tant que c'est pas du spam, vous voyez, ou du bourrage de mots-clés, hein, ce qu'on appelle du keyword stuffing, c'est-à-dire que on met des mots-clés en pagaille dedans, ou alors on bourrine, hein, vraiment sur les mots-clés, ou vraiment on bourrine sur la duplication de contenu. En fait, il faut se dire que dans ce monde, hein, il y a des gros, gros truands du contenu, et ils sont bien plus gros qu'Olivier, vous tous et moi réunis. En fait, c'est des spammeurs qui dupliqueraient des milliers de pages à la minute facilement, hein, ils pourraient faire, ils le font déjà, installer des blogs en automatique dans tous les coins, avec des pages dupliquées, etc., pour essayer de toutes les faire apparaître, se créer des réseaux de liens, etc., pour essayer de truander Google. Ça, franchement, ça existe. Google lutte contre ça. Et c'est pas vous, avec deux contenus dupliqués entre LinkedIn et votre blog, qui allez vraiment être embêté. Il y a aussi, par exemple, du vol de contenu via des flux RSS, des usines à contenu, hein, tout ça. À côté de ça, nous, on est vraiment des tout petits joueurs. Alors, que faire? Eh ben, l'idéal, hein, pour moi, c'est de se dire, oui, on peut publier sur les deux. Oui, on devrait publier sur les deux, parce que oui, ça aide, hein, à développer sa marque et sa visibilité. L'idéal, ça serait de ne pas republier en copier-coller, mais faire un nouveau contenu pour chaque plateforme. Oui, je sais, ça fait du boulot, mais ça peut être une version plus courte sur LinkedIn, l'agrégation des infos principales, par exemple, de 2-3 articles pour en faire un nouveau qui serait sur LinkedIn Pulse ou sur Medium, avec des liens vers les différents articles, ou alors faire un article opposé, hein, par exemple, si tu fais un article, Olivier, sur les 5 meilleurs moyens pour vendre, eh ben, tu pourrais faire un article sur LinkedIn et Medium, sur les 5 pires façons de vendre, avec des liens qui renverraient l'un vers l'autre, etc. Enfin, surtout de LinkedIn vers ton blog, hein, tout simplement, ça serait peut-être la meilleure idée. Sinon, oui, on peut laisser un délai, effectivement, c'est un bon moyen, mais tu peux laisser un délai de moins de 6 mois. Une semaine peut être suffisante, hein, si Google indexe assez rapidement vos contenus. Google peut passer tous les jours sur votre page, hein, peut même passer toutes les heures, hein, dans certains cas, s'il sait que vous mettez à jour souvent votre site. Moi, sur Cyberbounia, j'ai des contenus qui étaient indexés sur Google en moins de 5 minutes, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Donc, il savait qu'il y avait du contenu, il passait très 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 rapidement là-dessus, c'était aussi parce qu'il y avait de l'actualité, etc. Donc, il peut indexer très rapidement. Un bon moyen de le savoir, c'est d'utiliser la Search Console de Google, ou en cherchant directement l'article, l'URL de ton article, hein. On prend l'URL de l'article, on la colle dans le moteur de recherche de Google. Si Google l'affiche, c'est qu'il est indexé. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que si on met une copie de l'article sur Medium ou sur LinkedIn, on peut penser quand même que Google sait qu'il y avait déjà le contenu, avait déjà été indexé avant à une adresse qui était l'adresse de votre blog. Publier là d'abord les articles anciens, d'ailleurs, ça serait une bonne idée. C'est-à-dire que si tu prends d'abord, Olivier, tes anciens articles qui ont 5-6 mois et les mettre maintenant sur ces plateformes-là, eh ben, en matière de recyclage de contenu, c'est intéressant parce que ceux qui les découvrent maintenant sur LinkedIn, quand ils vont venir sur ton site, vont voir des contenus différents parce que c'est des contenus nouveaux. Donc, finalement, ça serait intéressant, effectivement, de dire, commence d'abord par des anciens articles. Si tu veux faire des copier-coller pour pas t'embêter, tu commences par les anciens articles. Les gens découvrent les anciens articles sur LinkedIn et vont ensuite cliquer, tu vas mettre un lien vers ton blog. Et quand ils arrivent sur ton blog, ils vont découvrir des nouveaux articles. Donc, c'est intéressant, hein, parce que comme ça, ça permet d'avoir d'amener les gens dans la profondeur de son contenu, de bien leur montrer la profondeur de tout ce qu'on fait, de toutes nos de l'ancienneté, de toutes nos expérimentations, etc. Google donne aussi un conseil intéressant, hein, qui dit qu'en fait, il faut s'assurer en fait que quand on duplique son contenu, hein, quand son contenu est diffusé sur un autre site, il faut faire un lien vers son article original. En fait, ils disent qu'il faut être très méfiant si on publie son contenu sur d'autres sites. Ils mettent la version jugée la plus appropriée pour les internautes. Et dans ce cas-là, quand même, ce qui est bien, hein, selon eux, c'est vraiment de dire, on le met sur LinkedIn ou sur Medium, ça serait de faire un lien vers l'article original, tout simplement pour signaler finalement à Google où était l'article original. Donc l'idée, hein, ça serait tout simplement, à la fin de ton article sur LinkedIn ou Medium, tu rajoutes une petite mention, cet article a été publié en premier sur mon site avec l'adresse, avec l'URL de l'article directement, ce qui permettrait finalement aux visiteurs comme à Google de savoir où est ton contenu original. Toi, à l'inverse, ben, tu vas peut-être éviter de faire un lien vers ton article, entre ton article de blog et LinkedIn et Medium, hein. Je sais, attention, je simplifie, hein. Les pros du SEO savent qu'on a un moyen de faire une déclaration de contenu canonique, etc. Qu'on pourrait dire que vraiment, c'est vraiment l'URL de notre blog qui est la première URL, que les autres URL sont finalement des URL dupliquées, etc. et qu'on pourrait faire quand même des liens. Je sais, hein, voilà, il y a des techniques, mais on va pas essayer de trop compliquer les choses, hein. Donc on va considérer finalement que le mieux, c'est toi, tu fais un lien de LinkedIn vers ton blog, mais tu évites de faire un lien de ton article de blog vers l'article sur LinkedIn, parce que finalement, ça servira à rien. Ton but du jeu, finalement, c'est de dire, j'ai des gens potentiellement intéressés à aller pêcher, hein, sur LinkedIn et sur Medium, je vais les ramener chez moi, et non faire la publicité, finalement, de tout ce que tu fais sur LinkedIn et Medium, même si, soyons honnêtes, c'est vrai que ça sera intéressant, parce que plus on a contact sur LinkedIn et Medium, plus on amplifie sa viralité. Donc, ça serait pas inintéressant, hein, de le dire, c'est pour ça qu'on met des liens, des petites icônes dans notre site, etc. C'est pas inintéressant le dire, mais dans ce cadre-là, moi je te dis autant pas le faire. En conclusion de tout ça, si vous êtes plus intéressé par la construction de marque que par le classement dans les moteurs de recherche, ce problème n'en est pas un. En fait, tout simplement, voilà, c'est ce que je voudrais vous dire, c'est que vous pouvez laisser tomber ces questions-là et vous dire, je publie tranquillement sur mon blog, je laisse 7, 8, 10 jours tranquillement, hein, voilà, et ensuite je republie sur LinkedIn et sur Medium en article, hein, sur LinkedIn et sur Medium, tranquillement. Dans ce cas-là, ça devrait passer. Ils seront, vous le savez, dans LinkedIn et Medium, dans un autre univers que le vôtre. Vous aurez peut-être du mal à les amener à télécharger votre email à client, à s'inscrire à votre newsletter ou des choses comme ça. Donc, pensez bien à placer des liens pour les rediriger chez vous. Pensez bien à placer des liens pour leur signaler que vous êtes sur les réseaux sociaux. Rappelez-leur peut-être dans une petite note qui vous êtes, hein, etc. Parce que, eh ben, quand on vous consulte sur votre site, peut-être qu'on peut avoir l'habitude de vous consulter, mais que des gens vous découvrent par ce biais-là. Donc, ils savent peut-être pas qui vous êtes vraiment. Donc, c'est là, il y a une petite modification peut-être de texte à faire. Pour l'anecdote, Mathieu Stéphanie, hein, que j'ai reçu dans le podcast, vous savez, c'est Bah, Mathieu, il a lancé Génération Do It Yourself, hein, podcast qui figure parmi peut-être les 10 plus gros podcasts de France. Donc, c'était dans l'épisode 444. Il publie le billet de son site, hein, il a un site, hein, Génération Do It Yourself. Mais il prend le billet de blog de son site pour chaque épisode et il le met sur LinkedIn. Et puis, vous le trouvez aussi sur Medium. Alors, je sais pas s'il republie chaque article, mais en tout cas, sur LinkedIn, hein, dans LinkedIn Pulse, vous trouvez bien les articles de chaque épisode de son podcast qui sont même publiés. Alors, lui, il attend pas le délai de 7 jours parce que lui, il est dans l'instantanéité, hein, quand l'article est publié, ce qui intéresse, c'est que, enfin, quand l'épisode est publié, ce qui intéresse, c'est que tout le monde aille l'écouter assez rapidement, comme il publie toutes les semaines, et donc lui, il attend pas ce délai. J'ai regardé un petit peu, hein, sur un article de cette semaine, hein, son épisode. Il y a quelques j'aime et commentaires. Attention, moi je trouve que c'est pas extraordinaire. J'ai pas fait la moyenne. Je pense qu'il y en a, il y a des épisodes qui sont plus extraordinaires que d'autres et donc qui auront plus de partages, de commentaires et de j'aime. Je pense, hein, que s'il le fait, c'est que il a trouvé que c'était pour lui un bon moyen de promouvoir son podcast et sa marque et que c'est vraiment ce qui nous intéresse dans l'histoire. Et puis il faut se rappeler aussi que tout ça n'est pas une science exacte, en fait, tout simplement. Et Olivier, pour vraiment répondre à ta question, c'est de dire, bah, il faudrait faire un test. Fais un test, hein, sur comment je t'ai dit, hein, tout simplement. Prends d'abord, pour moi, tes anciens articles, c'est une bonne idée. Republie-les. Tu peux peut-être faire des modifications, etc. Mais peut-être tu peux essayer sans faire de modifications. Si tu vois que ça pose problème, eh ben tu essaies de faire avec quelques modifications, etc. Il faut arriver, hein, vraiment. Je vous le dis, on est dans un monde où on doit tester les choses. Donc il faut tester les choses. Il faut apprendre les choses. Vous pouvez pas juste essayer de vous d'espérer les trouver comme ça par quelqu'un qui va vous expliquer tout ça, vous dire oui. Alors il y a ça, il y a ça et ça. Bien sûr, certains, là, comme ça, ce que j'essaie de vous faire là, c'est de vous donner vraiment, bah, un petit peu l'état de l'art sur l'instant, comme ça. Mais en fait, il y a tellement de cas différents. Tout le monde a des cas différents. Et en fait, entre nos intériorités, moi, j'ai des blogs, hein, des URL qui sont référencés depuis maintenant 20 ans. Je disais l'autre jour sur Twitter, par exemple, j'ai mon ancien blog qui est archivé, que je n'arrive pas à déloger quand on cherche Bertrand Soulier. C'est mon ancien blog archivé qui remonte en premier devant les URL qui m'intéresseraient le plus. Mais ça, c'est parce que c'est Google, c'est les archivages, c'est les antériorités de domaine. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qui vont jouer. Et pour ce qui va marcher pour l'un, peut ne pas marcher pour l'autre, etc. Et même, vous savez, les gros producteurs de contenu, ces gros consultants là que j'ai cités, etc., ils ont tellement de liens qui arrivent à leur site que probablement, eux, ils ne sont pas gênés, alors que peut-être pour certains d'entre nous, sur des domaines plus gênants, plus récents, on pourrait être gêné. Donc, il faut tester, il faut faire des tests, il faut accepter qu'il y a une part d'incertitude et il faut tester. Et c'est le monde du web, hein, c'est comme ça. Il n'y a pas de science exacte. En fait, seul Google sait vraiment comment son algorithme marche et moi, j'ai tendance à penser que même Google ne sait pas vraiment comment son algorithme marche totalement. En tout cas, c'est le cas, on sait, sur le Facebook. Je suis certain que les algorithmes sur Facebook, par exemple, sortent des résultats que Mark Zuckerberg n'avait pas prévu au départ, hein, qui a forcément, bah, des calculs qui se font un petit peu dans tous les sens. Et c'est un petit peu le jeu de chat et de la souris. C'est-à-dire que, hein, quelqu'un va essayer de trouver une astuce pour apparaître mieux dans Google. Google voit que cette astuce-là marche et se répand à plein de gens, etc., mais que ça lui pose problème à lui. Il va mettre des correctifs. Et c'est là que vous avez les fameux filtres, etc., qui apparaissent et qui font peur à tout le monde. Mais en général, ces filtres-là sont faits, bah, quand ça touche, quand c'est vraiment des gros moyens de truander. Et vraiment, pour les petits créateurs, souvent, bah, ça nous passe complètement au-dessus. Mais pourtant, ça nous cause vraiment des gros problèmes. On passe des heures à chercher le truc et on perd du temps à créer son contenu. Donc, pour moi, voilà, hein, je vous le dis, il faut faire des tests, il faut accepter de faire des tests. Mais aussi, au bout d'un moment, il faut se dire, il y a une part d'incertitude, hein, et je vais bien voir comment ça se passe. Voilà, c'était ma vision des choses. Si vous aussi, vous avez une question, pour conclure cet épisode, si vous aussi, vous avez une question, avant de vous laisser comme ça partir en week-end, hein, bah, peut-être vous avez une question, alors maintenant, vous allez tout de suite sur votrecoachweb.com/répondeur, et vous me posez votre question, vous pouvez la poser en audio ou en texte, ou alors, vous faites comme... non, vous pouvez pas faire. Olivier, lui, il a posé la question par le forum, le Munchu. Alors, vous allez me dire, quoi, je vous ai pas parlé du forum? Ben non, je vous ai pas parlé du forum, mais, si vous êtes inscrit à mes emails privés, je vous rappelle, hein, votrecoachweb.com/email, avec ou sans S, si vous êtes inscrit à ces mails, je vous promets, je vous parle de ça ce week-end. Oui, c'est un week-end de 3 jours. Je vous parlerai de ça, je vous mettrai un petit lien pour que vous puissiez vous inscrire et découvrir cette nouveauté qui arrive, qui est un nouvel espace communautaire dans lequel vous pouvez poser des questions, discuter, échanger, partager des liens, progressons tous ensemble. Et pour l'instant, je l'avais réservé à ceux qui sont patrons, c'est-à-dire ceux qui donnent finance le podcast par Patreon, et ceux qui achètent des formations, c'est-à-dire aux clients. Donc je les avais réservés jusqu'à maintenant à eux. Petit à petit, j'ouvre les portes et là je vais l'ouvrir à ceux qui font partie de la liste d'emails privés. Parce que c'est un petit peu aussi, c'est les privilèges de faire partie de cette liste. C'est des informations qui ne sont pas publiées ailleurs, je ne les republie pas ailleurs, ou alors vraiment extrêmement rarement, je l'ai fait une fois pour un article, vraiment une seule fois, je l'ai fait récemment, mais sinon je ne publie jamais les contenus de la newsletter privée sur le site ou ailleurs ou en podcast. Donc c'est vraiment une information que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc pour l'avoir, vous faites votrecoachweb.com/email. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon week-end, peut-être que ce sera un long week-end si vous travaillez pas lundi, mais je vous rappelle, je vous ai donné un petit peu de boulot, créer du contenu, et moi je serai d'ailleurs là lundi pour un nouvel épisode et tous les jours de la semaine prochaine. Je vous souhaite donc un très bon week-end et je vous dis à lundi. Ciao les créateurs.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.